Bienvenue dans Archi Différemment, une série de podcasts qui part à la rencontre de parcours singuliers d'architectes et explore le lien entre formation universitaire et pratiques actuelles des métiers. Je suis Clotilde Béroux et aujourd'hui je reçois Laure Deuzeuse. Bonne écoute. Bonjour Laure, aujourd'hui je reçois Laure Deuzeuse qui est architecte et scénographe. Tu as une agence qui s'appelle Studio Bloomer entre Paris et Marseille. Tu es diplômée de l'école de la Villette en quelle année?
Ça fait trop longtemps.
Et donc tu as commencé de l'architecture et t'en es venue à la scénographie. Et tu es venue présenter ton parcours dans l'amphithéâtre, dans le cours des métiers de l'architecture, il y a assez récemment. Ouais. Et c'était très intéressant. Je pense que ça va te guider cet épisode. C'est le fait que tu nous as parlé tout de suite de ton appétence pour le paysage et la grande échelle. Mmh. Et je ne m'y attendais pas du tout. Alors, comment t'es venue à la scénographie?
C'est justement par le diplôme. Puisque en fait j'ai toujours été passionnée par le paysage et j'ai fait mon sujet de diplôme était sur un territoire et ma conclusion a été que c'est par la petite échelle et quasiment en ne faisant rien, pas grand chose, qu'on pouvait peut-être répondre à des problématiques territoriales. Du coup, à la sortie de l'école, j'ai hésité entre ce format XL, moi c'était vraiment le territoire, même au-delà du paysage, qui m'intéressait, et ce format XS, qui pour moi pouvait être une réponse à la précédente échelle.
Et alors, la scénographie, c'est quoi le premier projet ?
Mon premier projet, à la sortie de l'école, en gros, j'avais candidaté à deux postes, un en paysage et un en scénographie, mais c'était un peu particulier puisque c'était dans un musée qui était sur l'architecture, donc je me sentais tout à fait compétente. Et c'était pour faire de la production d'exposition à la Cité de l'architecture et du patrimoine, qui à l'époque était en train d'ouvrir. Donc c'était assez excitant de voir s'ouvrir et se créer un musée sur l'architecture. Et donc finalement, c'est ça que j'ai choisi comme poste. Et j'ai commencé à prendre goût à ce format spécifique qui est en fait excitant puisqu'on crée des univers entier.
Et comment ça se passe quand on est dans... si tu étais dans la cité, tu étais dans la maîtrise d'ouvrage. Comment ça se passe la définition d'une exposition avant de passer pour toi de l'autre côté de la barrière?
J'ai appris, on organisait, donc on avait un commissaire qui était souvent invité ou parfois en interne et on avait un budget qui était voté au conseil d'administration et on devait organiser, trouver des scénographes, organiser une liste d'œuvres et valider qu'elles arrivent bien le jour J, en tout cas qu'elles soient bien dans l'espace le jour de l'ouverture. Et on a organisé, particulièrement, moi j'étais en charge en production, surtout les éléments qui étaient plutôt des installations immersives d'architectes à l'échelle 1 en fait.
Et alors, je voulais initier, on est déjà parti dans la thématique 2, mais je voulais initier en définissant un petit peu la scénographie. Mmh. Et la scénographie, ça vient du grec antique, donc je suis un peu regardée, c'était la skéné, la scène, en référence au théâtre, et graphé pour évoquer... l'écriture, le dessin, la représentation. Donc en fait, c'est un art de la mise en scène visuelle et narrative. Et c'est penser à un pop-up géant immersif. Enfin, immersif peut-être un peu plus tard, puisqu'au début, c'est raconter des histoires et c'est entièrement dédié au théâtre et au décor perspectif, donnant une illusion de profondeur. Je voulais juste faire un petit aparté sur la question de la scénographie technique.
Oui, alors scénographie, en fait, il y a Dedans, il y a un pêle-mêle de métiers d'aujourd'hui, en fait. Puisqu'en effet, initialement, en effet, c'était plutôt sur le théâtre. Donc, on parle de décor, en fait. Souvent, c'était des peintures sur des plaques de bois très fines. Et juste, on les mettait. Et puis derrière, il y avait juste de quoi contreventer que ça tienne avec des sacs de sable au sol pour pas que ça tombe sur les acteurs. Donc aujourd'hui, et ça a évolué aujourd'hui à deux métiers en particulier. Donc il y a la scénographie de théâtre. Alors le scénographe théâtre, donc pour les architectes, ils vont appeler leurs compétences pour créer une salle de spectacle. Donc ils vont définir la scène, la dimension de la scène, le grill, donc comment on éclaire. Et aussi, souvent, l'angle des sièges, le type de siège, etc., pour avoir la meilleure vue de la scène. Donc ça, c'est une partie de l'initiale. Ça, c'est une branche. Et il y a la deuxième branche où, en fait, dans les musées, de plus en plus, il y a eu une demande. En fait, la réalité, c'est ça, une demande de mettre en scène un peu plus les œuvres. Et de un, parce que les expositions sont devenues des événements et ça crée de la com pour un musée. Donc pour eux, c'est très important d'avoir une image et le petit twist qui fait, le petit plus qui fait que les gens viennent voir leurs expositions. Mais au-delà de cette simple mise en scène d'œuvres, il y a un côté technique parce qu'on doit jouer sur la conservation également.
Et sur le parcours, définition, citation de Patrick Bouchain qui dit « La scénographie, c'est l'art du cheminement et du coup l'art d'amener les gens à l'intérieur d'un espace effectivement souvent clos ». En lumière artificielle, puisque la conservation des œuvres demande souvent très peu de soleil, voire des degrés d'hygrométrie, des compétences très techniques. Et donc, j'aimerais bien que tu nous parles de ces parcours, de comment on fait rentrer des gens dans un espace qui peut être séquencé, ou alors dans un grand espace avec plein de petits mondes individuels. Et peut-être que tu peux nous parler de Disco ou d'autres scénographies que tu as fait. Donc Disco, c'est l'exposition qui vient d'ouvrir à la Philharmonie de Paris.
Alors tout à fait. Alors j'avoue que moi, ça a été une de mes découvertes en fait quand j'ai commencé donc sur la scénographie d'exposition. C'est vraiment la question de la relation du corps avec un objet. Parce que malheureusement, en effet, en conservation, enfin je fais le général, hein, mais en conservation préventive, on doit protéger, mettre en lumière assez bas, parfois pour les documents. Donc il y a toujours cette barrière d'invisibilisation. Et moi, j'ai toujours trouvé que... Enfin, je voulais, quelque part émerveiller et que la relation... ça passe par, en effet, la traduction du corps vis-à-vis de l'espace. C'est ça qu'on étudie en architecture également. Mmh. Et donc, c'est vraiment comment on se meut, mais c'est aussi un peu comme de la danse aussi. Moi, j'embauche souvent des gens qui sont intéressés par la danse contemporaine dans mon agence parce que je trouve qu'il y a ce rapport, en fait, dans scénographie spécifiquement, c'est le rapport vraiment entre l'architecture et quelque part le corps et donc la danse. Puisqu'on ne va pas avoir une œuvre de la même manière si on doit se lever le regard et donc s'allonger que autant que s'abaisser et regarder des choses un peu plus basses.
Tu es en train de nous faire un spectacle de danse,
oui.
Corporel face à moi. Donc tu vis vraiment la scénographie.
Oui, pour moi, je vis la scénographie et quasiment souvent, en fait, je mets même de la musique quand je conçois une scénographie. Et ça me donne une cadence. La cadence, malheureusement, on n'a pas toujours le loisir de la créer réellement, puisqu'on a quand même à la base un programme. Donc je vais prendre l'exemple du Disco, qui est un exemple un peu particulier, mais tout de même. Là, j'avais c'est le programme de base, qui était une envie des commissaires, qui est fait sous liste d'abord dans un synopsis, comme un synopsis de livre, de cinéma, etc. Ouais. Donc c'est un peu là où ils veulent en venir. Ils suggèrent des séquences, des articulations pour illustrer leurs propos. Et ils ont une première liste d'œuvres.
Alors, je vais faire une aparté sur la liste d'œuvres. Liste d'œuvres, il faut imaginer un tableau Excel, le plus grand tableau Excel du monde, avec chaque œuvre est définie selon, je vais raccourcir, et je ne serai pas exhaustive, mais selon sa provenance, sa hauteur, sa largeur, sa matière, à qui elle appartient, comment ils font la conserver, etc. etc. Et donc, c'est des tableaux infinis et extrêmement indigestes.
Oui, après moi, c'est vrai que c'est un peu l'équivalent en architecture du tableau de surface. Enfin, c'est un peu ça, sauf qu'en plus, moi, ça ne me dérange pas parce qu'il y a toujours des images. Donc,
oui, c'est vrai.
C'est comme un tableau de surface avec des images. donc, c'est un peu la BD du tableau de surface. Et donc ça me... Après, c'est vrai que c'est toujours long. C'est la base. C'est toujours le... Voilà. On doit partir là-dessus. Généralement, on modélise toujours les œuvres. Tout de suite, avant même de dessiner l'espace, on les modélise. Comme ça, tout de suite, on s'aperçoit en fait, de l'étendue, de l'importance, etc., de ces objets, des items. Donc voilà. Donc on a en effet cette fameuse liste indigeste. Alors, tout le monde a des formats différents, hein, il faut savoir. Donc il faut se dépatouiller en fonction des institutions. Donc on avait ça en base. Sur Disco, on avait également l'envie des commissaires d'avoir un look particulier. En plus de la scénographie, une petite strate additionnelle. Ils avaient approché avant tout des designers qui s'appellent GGSV, qui sont connus en fait parce qu'ils ont, enfin, qui avaient un rapport avec la musique disco, puisqu'ils avaient fait des tapis pour Goufram, qui est des éditeurs mobiliers mythiques, surtout pour les années 70 et très disco. Ils avaient fait ces tapis très disco, mais de manière contemporaine. Donc, ils les avaient approchés. Donc, moi, je suis arrivée après tout ça. Avec une définition des envies des designers, donc j'ai dû jongler avec tous ces éléments-là. Disco, c'est pour moi, donc j'avais à la fois une liste d'œuvres où je voyais donc clairement très colorée, puisqu'il y avait énormément en plus de néons.
Ouais.
Enfin, maintenant c'est plus des néons, mais bon, on avait des anciens néons.
Des boules à facettes.
Des boules à facettes. Alors, il faut savoir que la boule à facettes est le cauchemar pour un scénographe.
J'imagine.
Puisque, en fait, il fait des reflets.
Indésirables.
Indésirables. Ben, par exemple, si on met une vitrine à côté d'une boule à facettes, ben, on ne peut plus vraiment voir avec les reflets, les œuvres exposées derrière la vitrine. On avait énormément de photographies. Comment animer tout cela ? Et ensuite, on avait l'envie du designer qui était de faire un énorme tapis très coloré, ainsi qu'un fronton un peu post-moderne. En fait, on pense à Venturi, on pense à tout le mouvement post-moderne. Et aussi, lui, c'était la référence, évidemment, et moi, ça m'a fait beaucoup rire, c'est les boîtes de nuit un peu post-disco-italiennes qu'on voit un peu décrépit aujourd'hui dans les banlieues, dans la campagne, dans les rases campagnes. Donc voilà, c'était la référence. Donc à partir de ces éléments de référence, j'ai commencé avec mon équipe à construire un espace. Alors ce qu'on a fait, c'est il fallait garder absolument un espace central et une grande allée pour que visuellement on voit le tapis.
Okay.
De GGSV et ce fronton, qu'on garde cette perspective dans toute l'exposition. Donc du coup, ça c'était central. Sachant que du coup, on s'est dit, là où il y a cette perspective et ce tapis, c'est aussi l'endroit où c'est l'apogée du discours, puisqu'on, quand même, le discours était chronologique. C'est souvent chronologique, même s'il y avait des thématiques. Donc, on s'est dit, ça sera l'endroit où il y aura sans doute Studio 54, qui est le club le plus mythique de la musique disco.
À New York.
À New York, où il y avait Andy Warhol et toutes les plus grandes stars de Hollywood et du cinéma.
De l'époque.
Et de la musique, Jagger, etc. De l'époque, évidemment. mais souvent, on en parle encore. Et ensuite, du coup, à partir de cette organisation-là, on a réparti les thématiques sur les côtés. Alors, comment animer tout ça? Puisque, en fait, quand on a beaucoup de photos et des photos noir et blanc face à un espace très fort au milieu, comment...
Et coloré.
Parce que c'est là où on avait décidé aussi également de mettre tous les néons, etc. Ouais. Et, pour les dégager, pour les séparer des photos noir et blanc, sinon le contraste était trop compliqué. C'est comment, après, gérer ces micro-espaces de part et d'autre de cette grande allée centrale. Et comment l'animer? Donc, on a fait à la fois, on faisait des reconstitutions très suggérées, par exemple, pour ce qui était de... dites-moi si je m'étale trop, parce que là, je suis partie. on me parle d'un métier passion, donc je peux passer des heures. Donc, comment, par exemple, quand on parle de San Francisco, du cabaret et de Sylvester, du coup, on a mis des lampes comme dans les cabarets, dans les salles, derrière, dans les coulisses, dans les loges, où on se maquille. Donc, on a fait pour Divine un micro-espace qui a une petite couleur différente.
Et du coup, vous allez jouer sur chacun de ces petits espaces,
voilà. À
part des subtilités, pour avoir des ambiances différentes et des atmosphères.
C'est des atmosphères qui sont à la fois très... nous, on essaye toujours, en tout cas, côté... moi, dans mon agence, on essaie toujours d'avoir un côté historique, qui est en fait réel, et à la fois de le suggérer et d'en faire quelque chose de ludique.
Et alors, ce travail-là, il se fait notamment avec d'autres métiers, assez rapidement, qui vont être la signalétique, c'est-à-dire l'illustrateur qui va faire les cartels. Donc les cartels, ce sont les petites légendes qu'on voit à côté de chaque œuvre qui spécifient l'origine, l'auteur, etc., les matières. Et il y a aussi l'éclairagiste. Tu disais à quel point un éclairagiste, c'était essentiel. Et j'oublie quelqu'un, peut-être. Et la question, je voulais juste parler du fameux métier de socleur.
Oui. Donc, en gros, généralement, et je ne dis pas que c'est partout pareil. Donc, moi, je suis maître d'œuvre, je suis architecte, mais là, c'est en tant que scénographe. Et dans mon équipe, généralement, soit on le choisit, parfois c'est amené par d'autres personnes, on choisit un éclairagiste et un graphiste signalétique, puisque c'est les graphistes et illustrations, c'est pas toujours les mêmes. Enfin, il y a plein de métiers dans le graphisme, des gens spécialisés dans l'édition, etc. Donc là, on prend un signaléticien. Donc la signalétique, en fait, ils font pas que les cartels, ils font aussi les textes de salle. Sur certaines expositions, là, c'était pas le cas, mais ils peuvent combler des éléments manquants
de graphisme,
où le commissaire veut dire quelque chose mais on n'a pas l'œuvre, donc ils vont la reproduire ou la réinterpréter dans des grands trucs muraux ou quelque chose comme ça. Et donc là, sur Disco, par exemple, ce qu'a fait Agnès Da en studio, c'est tous les textes, donc elle les a fait en argenté, par exemple. C'est des petites interprétations avec une typographie un peu spécifique. Elle a fait également un néon.
Ouais.
Le néon d'entrée, les néons d'entrée, et les cartels qui sont... donc il y a les textes de salle, les titres et également les cartels.
Voilà, et ensuite, du coup, en parallèle de ça, il y a le métier du socleur qui va venir accrocher les œuvres de façon extrêmement pointilleuse et
délicate.
En fonction de l'œuvre.
Alors, soclage, en fait, il y a plusieurs... C'est des dérivés sans doute. Nous, on fait des socles, c'est des bases. Mais après... Il y a des socleurs qui viennent. Souvent, c'est la régie œuvre, des institutions qui s'en occupent ou qui font un marché séparé. Donc ça, c'est des gens d'une extrême précision puisqu'on est au millimètre. Le but de leur soclage, c'est qu'ils soient invisibles. Donc en fait, Il faut savoir que généralement les métiers de l'exposition c'est une invisibilisation de notre, mais c'est ça qui est assez dingue. Moi j'aime bien ce paradoxe. Et donc le but c'est de créer que l'aspect magique en fait de l'objet, puisqu'il il pourrait flotter. Voilà, donc ça c'est la tendance aujourd'hui. Je pense qu'il y avait d'autres tendances avant au 19e qui n'étaient pas les mêmes, mais c'est la tendance d'aujourd'hui. Et donc souvent ils utilisent des tiges de métal très fines et tout est invisibilisé, c'est toutes les accroches sont derrière. Donc nous on doit garantir leur accès technique et la solidité, et eux ils viennent socler.
D'accord.
Et l'éclairage, on a oublié.
Et l'éclairage qui vient faire, bah, pour le dire rapidement, ça va te permettre, bah, toujours dans cette invisibilité, de ne pas se voir et de faire en sorte que l'œuvre soit visible, sans reflet, sans ombre devant. Mmh. Et si l'éclairage est raté, on ne voit pas l'objet, donc la scénographie est ratée.
Oui, mais au-delà de ça, c'est une ambiance lumineuse en plus, puisque une ambiance lumineuse confortable et douce, où justement avec des effets sur discours, on a créé réellement des effets qui étaient liés à l'audiovisuel. Ça a été tout un processus de ramener plein de corps métiers différents pour créer un univers, une ambiance lumineuse spécifique sur la piste de danse.
Alors je voulais te faire parler de plein d'autres choses, parce qu'en fait tu as plein de scénographies et en même temps il ne reste pas beaucoup de temps, donc je voudrais enchaîner sur de passer du XS au XL, puisque l'année dernière tu étais lauréate avec l'équipe de Jacqueline Osti, donc qui est une paysagiste française, de l'Équerre d'Argent 2023 pour la catégorie prix des espaces publics et paysagers, donc pour le réaménagement des promenades de Reims. Donc avec cette idée que la ville est un théâtre, comme le dit Kevin Lynch, chacun y joue son rôle, traverse des scènes, improvise sa place dans la narration urbaine. Et donc avec cette idée que chaque individu en fait interagit avec son environnement, comment tu arrives à faire de la scénographie urbaine et à mixer ça en fait?
Alors oui, là c'était un projet qui arrivait, parce que, mais à mon plus grand bonheur, puisque c'est encore eux qui m'ont confié la phase 2, parce que c'est eux quand même les missionnaires, enfin ceux qui avaient la mission, et donc là j'avais la deuxième phase. Alors c'était, l'exercice était créer des kiosques et des jeux pour enfants, mais de toutes pièces, c'est-à-dire que c'est quand même un loisir qu'on n'a pas souvent. Et c'est avec ces deux médiums, en fait, quelque part, moi, je me suis amusée à scénographier ou cadrer le paysage sans pour autant prendre une présence énorme. Donc, c'est vrai que je pense que j'ai fait des dessins, sans doute, de scénographes, mais dans un espace paysager. Ils avaient déjà, encore eux, avaient déjà mis en place certaines colorimétries, puisqu'il y avait déjà une phase 1, et mis au point certains mobiliers et jeux d'enfants. Et nous, le grand challenge, c'était que j'ai fait, pour une scénographe, c'est incroyable, un pont de singe de 19 mètres de long. Ce sera mon seul pont, sans doute, de ma vie pour enfants. Et là, j'ai vraiment travaillé à la fois sur la ville, puisque on avait fait des encadrements, des entrées de ce pont qui rappellent la cathédrale de Reims. Et voilà, et créer, trouver la colorimétrie, trouver comment elle vient s'insérer, qu'est-ce qu'elle montre, en fait, etc.
Et c'est là où il y a une inversion totale, puisqu'en fait, le paysage change. Alors qu'une scénographie est tout le temps, promet une expérience unique qui se vit de façon. Promet une expérience universelle qui peut se vivre de façon unique selon la réception du spectateur. Mais là, l'ambiance change, les saisons passent, etc. Et on est dans une inversion totale. Et je crois que je vais devoir conclure. Et en fait, j'avais une autre question. Alors, je vous invite à aller voir ton site, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de scénographies qui avec plein de couleurs, plein de matières, etc. Et je voulais que tu nous parles de cette fameuse exposition immersive où en fait, autant dans les jeux urbains, il y avait cette idée que le temps passe, qu'on peut cadrer, qu'il y a différents paysages. Autant, par exemple, tu as fait l'exposition Vision chamanique au Quai Branly aussi, avec beaucoup de contraintes. Donc, c'est un musée institutionnel. Et donc, tu me disais c'est impossible de travailler sur l'expérience hallucinogène, etc. Mais comment on peut proposer un espace immersif? Où est-ce que tu arrives à le traduire?
Voilà. Bah, alors, vision chamanique était un exercice un peu particulier, donc en effet, il y avait ce côté un peu stratégique et diplomatique, il fallait pas trop parler du caractère de drogue tout en parlant des visions chamaniques, donc c'était toujours un peu compliqué. Donc il y avait une suggestion du commissaire de travailler sur l'olfactif, mais du coup en fait finalement a été résorbé pour des questions politiques, de ne pas parler de drogue en fait tout simplement. Ouais. Et il y avait à la fin une immersion donc 3D faite par Yann Kounen, donc c'était séparé de quelque part de ce que moi de mon intervention. Mais par exemple, sur la prochaine exposition qu'on prépare, qui se tiendra au Grand Palais.
Wow.
Oui, au sous-sol du Grand Palais. Alors, je tiens toujours à spécifier, c'est-à-dire que c'est pas sous la nef, quand même. C'est le palais, c'est le palais des enfants. Ça va être un espace dédié qui est nous, on est l'Expo Zéro, donc on découvre l'espace peu à peu, alors qu'on est en chantier, donc c'est un peu compliqué. Mais là, en fait, moi, j'ai, enfin, toujours dans cette j'adore le paysage et donc j'ai proposé quasiment d'être d'aller à travers les saisons pour découvrir la transparence. C'est ça que je proposais pour la scénographie de l'exposition. Et du coup, là, on a travaillé beaucoup les éclairages pour recréer, en fait, par exemple, pour une œuvre qui est immersive de Sony Park, où on passe dessous et c'est du plexiglas irisé. Pour recréer tous les effets de la lumière naturelle, on va travailler la lumière et elle va s'allumer peu à peu, se rééteindre, etc. pour en fait traverser aussi et voir une œuvre qui est fixe et dans le noir, toute la dimension qu'elle peut donner en fait à un espace.
Et pour faire vivre différentes manières.
Voilà.
Je voulais juste préciser aussi, parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler, mais que lors de ton intervention auprès des étudiants, tu as énormément parlé du réemploi et de ta capacité à adapter les scénographies avec les fonds ou les espaces disponibles, puisque une scénographie, ça ne se fait plus de tout jeter au bout de 3 mois, on espère.
Malheureusement, ça se fait beaucoup encore. C'est une lutte que nous menons encore aujourd'hui.
Voilà. Donc, est-ce que tu aurais un livre ou un conseil à donner en guise de fin? Ou un livre à conseiller? Ou une émission ou...
Non, parce qu'en fait, finalement, moi, sur la scénographie, je me base énormément en fait, sur ce que je lis en architecture.
Ouais.
Donc, tous les travaux qui ont été listés par Encore Heureux dans leur livre Réemploi, pour moi, c'est aussi une base. J'ai joué au Tetris avec les fenêtres. Moi, je le fais avec des socles.
Mais c'est dans matière grise.
Voilà, dans matière grise, pardon. Moi, je le fais, mais avec le mobilier existant. Je tâche aussi, mais ça, vous l'avez vous-même dans l'école d'architecture, de travailler. Mais par contre, c'est pas travailler, alors que moi, je le travaille. Les joints apparents pour pouvoir... pardon, j'ai été un peu brute. Pour travailler les joints apparents pour pouvoir, en fait, amener les plaques de bois directement dans une filière de réemploi sans trop le retravailler.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si on fait des bandes entre les plaques de bois, après, on les détruit un peu.
Et... Ça, c'est par exemple, rien que ça, en fait, c'est des actes très simples, mais rien que ça, c'est une difficulté à faire passer auprès des commissaires.
Oui,
et du coup, moi, je dois le travailler de façon, mais la plus stricte, pour qu'elle ne heurte pas la lecture de l'œuvre. Et c'est des choses comme ça qu'on travaille à la fois simplement, mais avec grande difficulté. Et puis, il y a aussi, évidemment, l'éclairage et l'impression aussi qu'on travaille, on essaie de travailler de manière écologique. Donc, c'est énormément de choses, mais il y a des filières. L'avantage, c'est qu'en menuiserie, en fait, ça peut passer à la fois dans des musées qui sont moins fortunés, qui n'ont pas d'argent et qu'en effet, les mobiliers peuvent aller là-bas, ou tout simplement dans les filières de réemploi où on peut après ressourcer ces éléments-là.
Eh bien, je te remercie.
Merci, Clotilde.
Vous venez d'écouter un épisode en compagnie de Laure Dezeuse. Merci pour votre écoute.